De retour à l'émission Au gré du temps, notre invité cette semaine, Denis Dubord, hypnologue. Vous parliez de réceptivité en première partie d'émission. Est-ce que tout le monde peut être hypnotisé?
Oui, la réponse est oui. C'est que on doit simplement, à la base, démystifier le terme d'hypnose. L'hypnose est un état naturel. Un exemple d'hypnose naturelle, c'est, par exemple, on est sur la route, on roule, ça fait une heure ou deux, et on manque notre sortie habituelle parce qu'on était comme dans la lune, admettons. On était, en fait, en état d'hypnose. Quand on regarde un film et qu'on ne voit pas le temps passer, on est hypnotisé par le film. C'est des exemples très, très banals.
Ça veut dire que notre esprit est accaparé uniquement par ce que l'on voit ou par une pensée. Lorsqu'on rate, par exemple, pour reprendre votre exemple, la sortie d'autoroute, c'est qu'on était probablement en train de penser à quelque chose d'autre qui nous faisait oublier la réalité.
Exactement. Vous avez mis le doigt dessus. On est comme ailleurs, mais on est conscient. Comprenez? La nuance est très... la ligne est mince entre l'hypnose et l'état d'hypnose et l'état éveillé.
Et c'est dans cet état que vous amenez les personnes qui vous rencontrent. Vous les mettez, à partir de suggestions, je présume, dans un état où l'esprit va focusser spécifiquement sur les suggestions que vous allez pouvoir faire.
Oui, absolument. Je travaille beaucoup. Il y a une autre discipline qui est très, très, très analogue à l'hypnose, c'est la PNL, la programmation neuro-linguistique. C'est simplement d'utiliser des mots qui vont évoquer des images, qui vont évoquer une émotion. Toujours dans le sens positif. Jamais de ne pas, jamais de négation, jamais d'image négative. C'est tout simplement de travailler avec les mots pour amener une image, pour amener une émotion. Le subconscient comprend en termes d'image et d'émotion. Les mots, c'est un véhicule.
Est-ce que ça prend plusieurs rencontres pour amener quelqu'un, effectivement, à se départir, disons, d'une mauvaise habitude? Que ce soit l'envie de fumer, le fait d'avoir peur, le fait d'être obsédé uniquement par une idée constamment. Il y a toutes sortes de phobies qu'on peut avoir.
La question, c'est difficile de répondre parce qu'il y a tellement de variables. La variable la plus importante va être le niveau initial de motivation avec laquelle la personne va se présenter. Ensuite, à quel point elle va travailler chez elle certains petits exercices, certaines petites prescriptions que je vais faire pour renforcer le travail qui a été fait.
Parce qu'il y a du travail à faire du côté de la personne.
Je donne le minimum, les exercices les plus ancrants, si on veut, pour que la personne n'ait pas le droit de ne pas les faire. Si elle ne les fait pas, c'est mauvais signe, c'est quelque chose que je ne peux pas l'aider plus loin. Si elle revient la semaine suivante et dit « Est-ce que tu as fait ça? » »« Non, je ne l'ai pas fait. » Ça part pas bien quand c'est
ça. Ça dénote une motivation qui est moins grande, à tout le moins.
C'est symptomatique de quelque chose que je ne peux pas... que j'ai plus de difficultés à aider.
Et les exercices sont très essentiellement à des exercices de concentration, de méditation?
Moins que ça, j'utilise, par exemple, le fameux miroir. Les gens, au début, c'est tout simplement de se familiariser avec leur intention. Quand on se répète quelque chose, qu'on se regarde dans le miroir, c'est comme si le cerveau comprend. C'est comme si on lui donnait un ordre de dire, regarde, je suis... Et pas un ordre, tout simplement une intention. Le cerveau reçoit visuellement le fait qu'il est en train de se faire parler, de se faire suggérer. C'est comme s'il embarquait dans le jeu. Sans le miroir, c'est pas absolument nécessaire, sauf que c'est un grand outil, et c'est classique. Dans toutes les littératures, le miroir, c'est un outil très puissant. D'où la simplicité, des fois, des exercices.
Revenons à la musique. On va entendre juste un court extrait parce que c'est une musique qu'on n'a pas nécessairement l'habitude d'entendre sur les ondes de Radio VM. Mais puisque vous nous l'avez proposé, c'est qu'il y a sûrement une signification. On parle du groupe Metallica, Until It Sleeps. Il y a une raison pour avoir proposé cette musique?
C'était dans la catégorie adolescence de la... des demandes de choix musicaux et j'ai pas vraiment pu passer à côté de Metallica.
Vous avez beaucoup écouté ce genre de musique quand vous étiez adolescent. C'était une forme de révolte intérieure ou qu'est-ce que ça exprimait? Pendant qu'on va l'écouter, on va écouter juste un court extrait. Écoutons d'abord, puis on pourra entendre pendant que vous parlez par la suite.
This pain of mine, I run, but it stays right by my side. So tell me, open, pour me out the things inside that scream and shout, and the pain still. Just like the stray, you feed it once, and now it stays. Now it stays. So tell me, open, but beware. This thing's insane without a care, and the dirt still stains me.
Alors, qu'est-ce que ça exprimait, ce genre de musique pour vous? Qu'est-ce que ça venait évacuer, peut-être, comme émotion?
Bien, vous avez dit le mot révolte, oui. Et quand on regarde le concept d'adolescence, le mot révolte est assez souvent attaché à adolescence. Sans généraliser, mais on n'a pas besoin. On regarde les mouvements punk et tout ça. C'est vraiment, c'est comme un symbole de l'adolescence. C'est une crise. On parle d'une crise d'adolescence. Donc, qui dit crise, parfois, ça peut...
Est-ce que, à titre d'hypnothérapeute, mais plutôt d'hypnologue, parce que vous préférez cette expression, ça vous a permis, par la suite, de mieux comprendre cette période de votre vie, c'est-à-dire l'adolescence, et peut-être aussi de comprendre davantage les adolescents qui pourraient, par exemple, vous consulter?
Absolument, absolument. C'est un chemin que j'ai eu, que j'ai vécu, la révolte. Et au début, on a parlé justement du programme familial, mon essence à moi et ça. Ça, c'est des bouillons qui soient plus ou moins clairs dans la vie de quelqu'un. Il arrive toujours un moment dans la vie où il y a une certaine crise quand il y a des conflits inconscients, si je peux permettre l'expression.
Est-ce qu'on n'est pas condamné, justement, à vivre constamment ces conflits qui viennent, vous dites, de l'inconscient, mais qui sont parfois conscients aussi?
Ouais.
C'est un peu, j'allais dire, notre façon de vivre à tous et chacun. Parfois, on est tenté vers un oui, tenté par un non. C'est le combat intérieur. C'est ce qui fait souvent aussi la force d'un individu.
Oui, exactement. Et si on pouvait regarder à vol d'oiseau la vie de chacun d'entre nous, je ne croirais pas me tromper si tout le monde a une crise à une époque ou non, ou plus ou plus tard dans sa vie.
C'est... Vaut mieux la vivre à l'adolescence, peut-être.
Peut-être. Et peut-être que la crise d'adolescence n'en empêchera pas une autre plus tard. Ça dépend peut-être de la résolution, mais je crois que c'est vraiment... C'est la nature humaine de faire face À soi-même, je crois.
On réfléchit à tout ça en écoutant Mozart, l'aria Sposa Cara, Sposa Bella de la Finta Semplice, Köchel 46. C'est extrait de la scène 7 de l'acte 2. C'est interprété par Douglas Johnson dans le rôle de Don Polidoro. C'est un ténor et il est accompagné de l'orchestre de chambre de Charles-Philippe Emmanuel Bach, dirigé par Peter Schreier, je disais Charles, c'est bien sûr Carl Philippe Emmanuel Bach. Avec nous, Denis Dubord, vous aimez beaucoup la musique de Mozart, me disiez-vous?
Oui, c'est...
Celle-ci était drôlement agréable à entendre oui. aussi. On l'entend moins souvent. Mm. Denis, je serais porté à vous demander si... parce que vous nous avez dit en début d'émission que vous avez eu un parcours sinueux. Mm-hmm. Est-ce que ce parcours est terminé?
Je regardais cela récemment et je me disais que ça semble le cas. Je semble avoir trouvé ma voie, comme j'ai dit au début, qui rassemble, qui est l'amalgame de tout mon parcours. Et je me sens vraiment, je sens vraiment que j'ai trouvé quelque chose que j'ai comme toujours cherché, mais je, sans le savoir.
Et je vous pose cette question parce que bien des gens l'écoutent qui se retrouvent dans la même situation, qui se cherchent et qui se demandent si un jour ils vont trouver. Il y a de l'espoir. On peut parfois trouver sa voie après, bien sûr, différents obstacles qu'il faut surmonter et qu'on ne souhaite pas toujours nécessairement surmonter.
Je peux simplement résumer en une phrase, c'est « chercher et vous trouverez ». N'arrêtez jamais de chercher si vous sentez que quelque chose est incomplet. Peu importe, continuez toujours à chercher, n'abandonnez jamais l'espoir de trouver ce que vous cherchez, même si vous ne savez peut-être pas. Si vous sentez que vous devez chercher quelque chose, continuez toujours, ça va arriver.
Et dans ces cas-là, la vie fait ce qu'elle veut. Mm-hmm. Julie Zenati nous le dit fort bien.
Dire les mots que tu espères, ces mots de velours qui vont te plaire pour devenir celle que tu attends. J'ai mis du temps, j'ai mis du temps pour revoir le monde un peu plus beau, prendre chaque jour comme un cadeau pour trouver l'envie tout comme avant. J'ai mis du temps, j'ai mis du temps et la vie fait tout ce qu'elle veut. Le pire et le mieux, oui.
C'est une chanson qui résume un peu ce que vous nous avez évoqué au cours de cette émission. Mm-hmm. Vous êtes toujours très actif au plan d'hypnose.
Oui.
On va pouvoir regarder un peu plus, de façon plus approfondie la semaine prochaine, mm-hmm. Comment on peut, j'allais dire le mot guérir, même si vous n'appréciez pas nécessairement ce mot.
Interdit au Québec. Je dis au Québec, mais oui, c'est vraiment, c'est un mot que je n'ai pas le droit d'utiliser.
Alors, comment vous accompagner, pourrait-on dire, ça mm-hmm. c'est mieux,
oui.
Des gens qui éprouvent certaines difficultés grâce à des techniques d'hypnothérapie, d'hypnologue que vous utilisez fort bien. Mm-hmm. L'hypnose est au service de la qualité de cet accompagnement que vous pouvez rendre aux autres.
Oui.
Le temps de vous dire que cette émission a été réalisée sous la supervision technique de Pierre Degagné, Armand Dubois, la réalisation et l'animation. Et on va se quitter avec la pièce qu'on a entendue de Taco en début d'émission, Putting on the Ritz. Mais on va écouter l'original pour mm-hmm. Terminer. Elle est interprétée par Fred Astaire. C'est un enregistrement qui date de 1927, qui a été bien sûr modernisé, c'est-à-dire que les techniciens s'y sont affairés pour éliminer à peu près tout le grichage possible. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Au plaisir.
Parfait, merci.
Have you seen the well-to-do up and down Park Avenue on that famous thoroughfare with their noses in the air? High hats and arrow collars, white spats and lots of dollars, spending every dime for a wonderful time. Now if you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits? Putting on the Ritz. Different types who wear a day coat, pants with stripes and cutaway coat, perfect fits. Putting on the Ritz. Dressed up like a $1 million trooper, trying hard to look like Gary Cooper. Super duper, come let's mix where Rockefellers walk with sticks or umbrellas in their mitts. Putting on the Ritz.
blue and you don't know where to go to. Why don't you go where fashion sits, putting on the Ritz? Different types who wear a day coat, pants with stripes and cutaway coat, perfect fits, putting on the Ritz. Dress up like a $1 million trooper, trying hard to look like Gary Cooper. Come, let's mix where Rockefellers walk with sticks or umbrellas in their mitts, putting on the Ritz. Have you seen the well-to-do up and down Park Avenue on that famous thoroughfare with their noses in the air, high hats and arrow collars?